Chapitre 12e, la revanche des bandits. Dans les mots de haine et de rage que lui criait le prisonnier osant encore braver, une courte phrase, dite avec orgueil, avait frappé plus particulièrement le roi des détectives. « Même ficelé, lui avait dit le bandit, même pied et poing lié, le chef saurait vous échapper. » Cela pouvait passer pour de la jactance. Mais le bandit avait ajouté sur un ton de triomphe « D'ailleurs, vous en savez quelque chose. » Ces quelques mots n'étaient pas tombés dans l'oreille d'un sourd, ni dans celle d'un homme qui ne fait pas attention à ce qu'on lui dit. Martin Humain ne l'avait pas oublié. Il rappela ce propos à son fidèle Prosper, et il le commenta. « Donc, dit-il, je dois me rappeler que le chef de ces bandits, même pied et poing lié, peut m'échapper. Cela prouve qu'il s'est déjà échappé de mes mains dans ces conditions. Cela prouve qu'il s'est déjà trouvé ainsi ficelé et qu'il a été mon prisonnier, mais qu'il a pu m'échapper. » Prosper sourit. « Les prisonniers faits par vous, chef, dit-il, qui bien ficelés, comme dit ce bandit, qui pieds et poings liés ont pu s'échapper, sont tellement rares que je crois qu'ils n'existent pas. » Martin Huma répondit. « Si, si, mon ami, il y en a. Voulez-vous me permettre de vous demander lequel ? Attendez. Peut-être bien aussi ce bandit voulait-il dire que parmi ceux que j'avais arrêtés et qui, condamnés, se trouvaient dans une prison quelconque, dans un bagne, quelques-uns étaient parvenus à prendre la clé des champs. « Cela ne vous regarde pas, chef. Que des gens s'échappent de prison, et ce n'est plus de votre ressort, et les bandits n'ont pas à tirer gloire contre vous de cette évasion. Aussi, n'est-ce pas, à mon avis, ce que celui-ci voulait dire ? Il a bien plutôt précisé son cri d'orgueil, voulant me blesser personnellement, me prouver que leur chef, en qui ils ont une confiance absolue, leur semblait bien plus fort que Martin Huma. C'est leur opinion. » Cet homme a voulu me dire que malgré ma victoire du moment, le chef saurait prendre sa revanche. Et que pour eux-mêmes, dans l'état pitoyable dans lequel ils se trouvaient, rien n'était encore perdu. L'espoir est une belle chose. Ce bandit voulait surtout me rappeler un fait, me dire que j'avais tenu un moment son chef, et que ce chef s'était tout bonnement échappé de mes mains qu'il avait ficelées, comme je sais le faire. Bien, mais qui est cet adroit bandit ? Ce merveilleux malfaiteur qui, dans ces conditions, a pu s'échapper de vos mains ? Martin Huma répondit. « Il y a un homme d'une audace inouïe, d'une vive intelligence, un criminel endurci, contre qui j'ai déjà entamé le combat et que j'ai déjà vaincu. Cet homme s'est échappé du bagne. Cet homme est une seconde fois entré en lutte avec moi. Ou plutôt, la fatalité l'a amené à se trouver encore à m'avoir pour ennemi. Sans que je sache qui je combattais réellement, c'est lui que je poursuivais. Ce misérable, d'une habileté surprenante, est enfin, une fois de plus, tombé dans mes mains. Je l'ai tenu vraiment à mes pieds, à terre, vaincu, pris, attaché, ficelé, pieds et poings. Comme ces hommes, oui. Et c'est exact, c'est malheureusement trop vrai, cet homme ainsi attaché a pu s'échapper de mes mains. » Prosper dit alors, « Chef, vous voulez parler du banquier de Krapps, du directeur de l'agence du boulevard Saint-Michel ? Oui, mon ami. Du tatoué, en somme, du tatoué. Du tatoué. » Le roi des détectives se tut. Prosper regarda le silence de son chef. Tous deux, se regardant, demeurèrent ainsi, se livrant à leurs pensées sans oser les formuler tout haut. Le tatoué était en effet un rival redoutable. C'était bien le bandit digne du roi des détectives. Et le duel engagé entre ces deux hommes ne pouvait cette fois se terminer que par la défaite de l'un d'eux, par la mort. Au bout de quelques minutes, Martin Huma reprit. « Cet homme, notre prisonnier, vient de me donner l'assurance que je ne me trompais pas dans mes conjectures. Vous croyez que nous avons affaire encore à la bande du tatoué ? Je ne le crois pas seulement, j'en suis absolument sûr maintenant. C'est toujours la même bande, celle que nous avons trouvée dans le souterrain, celle qui nous a attaqué, Philippe et moi, en pleine forêt de Fontainebleau. C'est le tatoué qui devait nous assassiner ces jours-ci. » Martin Huma déclara. Le commandant Remondin, ce fameux grognard qui n'aime pas la peinture de son sacripant de neveu, ce sacreur, ce roulement perpétuel de jurons, ce vieux dur à cuire qui a vu tous les soleils, et surtout celui de Nouméa, ce brave militaire n'est autre que notre ennemi le tatoué. » Prosper hocha la tête. « Chef, nous nous en doutions déjà, Philippe et moi. Oui, depuis le premier jour que nous avons eu la visite de cet illustre commandant, je me suis demandé qui pouvait se cacher sous cette barbiche grise. Ah, le tatoué est merveilleux dans ses déguisements. Extraordinaire. Ce n'est qu'au bout de plusieurs jours, quand le commandant passa près de nous, presque à chaque fois que nous nous mettions à peindre, que l'inquiétude nous gagna. Je me souviens, chef. Il ne nous sembla pas naturel que ce vieux militaire voulût entrer insidieusement dans nos habitudes, dans notre vie en plein air. Et nous n'avons pas tardé à découvrir la vérité. Seulement, si nous avons émis des conjectures, fait des suppositions, nous ne pouvions jusqu'à présent rétablir la véritable personnalité de cet individu. Même en arrivant chez lui à l'improviste, le surprenant avec des moustaches pas suffisamment collées, vous ne pouviez encore voir d'une façon absolue qui se cachait sous ce masque. Non. Il y a tant de gens qui seraient heureux de se débarrasser de Martin Numa que le choix est assez difficile. Sans doute. Ce n'est véritablement que notre prisonnier qui est venu confirmer mon opinion que nous avons cette fois affaire à notre ancien ennemi, le tatoué. Martin Numa s'écria « Eh bien, tant mieux, j'aime assez cela. Voilà un ennemi qui s'acharne. » Martin Numa, en disant cela, ne se doutait pas que ce plaisir qu'il réclamait allait fort promptement lui être à nouveau donné par ses ennemis. Ses hôtes, sachant quel homme il logeait, connaissant leur ami et comprenant les exigences de la situation, lui obéissaient immédiatement, absolument comme s'il faisait partie de sa brigade. C'est ainsi qu'ils étaient partis à Melun pour voir ce malheureux Courville et qu'ils ne rentrèrent que par le train qui les amena à la villa juste à l'heure du dîner, ainsi qu'il leur avait spécialement recommandé. Martin Numa avait pendant ce temps expédié d'un autre côté le jardinier à Fontainebleau pour amener l'auto, et la cuisinière, sous prétexte d'un plat très difficile à préparer, était gardée à vue dans sa cuisine. Ainsi, Martin Numa, maître de la villa, avait pu organiser la défense, faire certains préparatifs pour repousser toute attaque, si, comme il le croyait, elle se produisait. Martin Numa tenait à intriguer ses ennemis. Grâce à ses agents qui, déguisés en Martin Numa et en Prosper, peintres paysagistes, avaient conduit, bien en vue des ennemis, les deux bandits prisonniers, en mannequin, à la gendarmerie de Fontainebleau, il avait fait croire que lui-même se trouvait encore à Fontainebleau. Puis, les deux agents ayant repris leur propre physionomie et cessant de jouer les Martin Numa et les Prosper, étaient peu après sortis de la gendarmerie. La voiture attendait là que le jardinier vint la chercher. Les deux agents allaient reprendre leur poste non loin de la villa du commandant. Ils purent, en sortant de la gendarmerie, remarquer que deux individus se tenaient en observation non loin de la porte du bâtiment. Certainement ces hommes épiaient. Ils attendaient, voulant savoir si Martin Numa et Prosper sortiraient. Pendant de longues heures, ils perdirent leur temps. Les pseudos Martin Numa et Prosper étaient déjà depuis longtemps partis, que les espions restaient encore en faction et s'impatientaient. Puis ils virent la petite auto sortir. Ils eurent un moment de joie. Ce moment fut court, et leur anxiété redoubla. En effet, au lieu de Martin Numa et de Prosper qui l'avaient amené ici, c'était le jardinier qui, pour le moment devenu chauffeur, ramenait la voiture. Et dans la voiture, plus rien. Personne. Donc, pensèrent les espions, Martin Numa et Prosper sont encore dans la gendarmerie. Ils veulent rester avec leurs prisonniers. Ils tiennent à ne pas les perdre de vue. Peut-être attendent-ils la nuit pour les embarquer et les conduire à Paris. Alors, l'un d'eux se détacha et alla prévenir à la villa du commandant. Les hommes de Martin Numa le reconnurent. Il leur était facile de deviner ce qu'il venait de dire là, quel devait être son rapport. Ils ne purent que rire. « Le chef les joue encore, » firent-ils. « Les joue comme des enfants. » En effet, l'annonce que la voiture était partie sans emmener Martin Numa ni Prosper causa un certain émoi dans la villa. Peu après, l'homme qui épiait la gendarmerie reparaissait et se dirigeait vers la prison, à son poste, et sans doute muni de nouveaux ordres. Presque aussitôt, deux hommes sortaient de la petite villa, touchant à celle du commandant. Ces hommes montèrent à motocyclette et partirent dans la direction de Bois-le-Roi, sur la route au bord de laquelle, tranquillement, se trouvait assise la villa de nos aimables hôtes. « Bon, » pensèrent avec raison les agents du roi des détectives, « ils vont voir si Martin Numa ne s'est pas échappé d'une façon ou d'une autre, n'est pas passé sous leur nez et ne se trouve pas déjà à la villa quand ils le croient encore à la gendarmerie. » Mais l'étonnement des gens de la villa du commandant devait être plus grand encore. En effet, voici qu'au moment où les motocyclistes qui allèrent voir si Martin Numa se trouvait à la villa venaient dire qu'ils l'y avaient vu, pendant que deux hommes continuaient à surveiller la gendarmerie dans laquelle, selon toute apparence, le roi des détectives se trouvait encore, Voici qu'un homme accourait chez le commandant avec effarement, déclarait que Martin Huma et son second Prosper, tranquillement, prenaient un boc de bière dans un café. À cette nouvelle, le commandant dut pousser un juron de fureur, un juron sincère de rage et de haine. Il dut s'emporter contre ces hommes qui lui faisaient des rapports si extraordinaires, des rapports qui ne tenaient pas debout, qui ne pouvaient être exacts. Comment, en effet, avoir vu Martin Huma et Prosper entrer dans la gendarmerie d'où ils n'étaient pas encore sortis, disaient les uns. Comment les avoir aperçus dans la villa, disaient les seconds. Et enfin, comment ces derniers pouvaient-ils déclarer que Martin Huma et Prosper prenaient en ce moment un verre de bière dans un café? Certainement, deux sur trois rapports étaient faux. Martin Huma, tout merveilleux qu'il était, n'avait pas encore cette puissance d'ubiquité qui lui permit de se trouver avec son lieutenant dans trois endroits en même temps. Cette fois, le commandant ne put y tenir. Il voulut aller lui-même s'assurer du fait. Cigare au bec, grosse canne à la main, il quitta sa maison. Et il se dirigea comme en flânant vers le café que les agents lui avaient désigné. Mais il n'eut pas à pénétrer dans cet établissement. Comme il allait y arriver, Martin Huma et Prosper en sortaient. Cette fois, le commandant n'eut pas à hésiter. Lui-même les reconnut. Il les vit tels que ces jours-ci, dans la forêt, il les rencontrait. Tels que ce matin même, il les avait aperçus. C'était en effet bien le Martin Huma, le peintre, qui était venu lui rendre visite. C'était bien le Prosper, le peintre, qui attendait devant la porte dans la petite voiture. Quand il les aperçut, le roi des détectives et son second s'apprêtaient à sauter dans le tramway qui passe au milieu de la villa et de là se dirige vers la gare très éloignée. Le commandant alors s'arrêta. Il attendit, tournant le dos à la voie, regardant dans une devanture de magasin, mais épiant dans la glace de la devanture le départ du tramway. Il vit parfaitement Martin Huma et son second entrer dans le tramway et se placer sur la plateforme. Puis le tramway s'ébranla à grands coups de timbre sonore. Mais il eut beau se tourner, ne pas montrer son visage, les détectives l'avaient parfaitement aperçu. Ils s'étaient même arrangés de manière à être bien vus par lui. Cela faisait sans doute partie de leur mission. Maintenant, ils se dirigeaient vers la gare. Ils prenaient un billet de première et attendaient sur le quai quelques minutes. Puis ils sautaient dans un compartiment, s'asseyaient et attendaient le départ du train, espérant voyager seul. À ce moment, un groupe de touristes anglais ou allemands déboucha sur le quai avec grand tapage, se bousculant, s'appelant. Les touristes, que le chef du train, le chef de gare, pressaient du cri « Allons, en voiture !» semblaient affolés. Ils ouvrirent la portière du compartiment où se trouvaient Martin Huma et Prosper, et criant, gesticulant, six d'entre eux y pénétrèrent. Martin Huma et Prosper s'étaient levés. Ils voulurent céder la place à ces voyageurs. Ils essayèrent de sauter hors du train, mais les portes du compartiment étaient déjà gardées par ces touristes. Le train marchait. Il était trop tard. Avant que Martin Huma et Prosper aient eu le temps de se défendre, d'appeler au secours, de donner l'alarme, ils étaient saisis, bâillonnés et ficelés. Et maintenant que le train roulait à toute vapeur, Martin Huma et son second, Prosper, dûment attachés, étaient gardés sur les banquettes par ces étranges touristes parmi lesquels se trouvait le commandant Remondin.